Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour écouter vos expériences de vie. Et à mes côtés, ma camarade Ambline, bonjour.
Bonjour Olivier, coucou, bonjour, ça va? Je suis un peu loin,
ici, oui, venez. Ici, c'est à vous que l'on s'intéresse, à ce que vous avez traversé, à vos joies, à vos peines, car votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. Alors, se regarder dans le miroir peut être une épreuve, essayer un vêtement, un moment très désagréable. On se trouve trop gros, trop grand, trop petit, pas assez de ci, pas assez de ça. On voudrait gommer ça. Singularité et différence. Il y a le corps rêvé et le corps apprivoisé. Il arrive aussi qu'un handicap physique, une maladie, soit un frein à la confiance en soi. Vivre en harmonie avec soi-même n'est pas facile, mais on peut apprendre à s'aimer. C'est d'ailleurs l'idée du mouvement Body Positive, né en 2017 aux États-Unis. Tu es beau, tu es belle, quoi qu'il advienne.
Je suis
réussir à aimer son corps, accepter d'être soi et rien que soi, comme le chante ici l'artiste Nash. Ce corps que j'ai apprivoisé, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Comme chaque jour, on vous écoute et on se délecte de vos histoires et de vos témoignages au 39-21. N'hésitez pas à témoigner au standard d'Europe 1 pour nous écrire hashtag Europe 1, c'est Twitter, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Amandine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Amandine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Amandine?
Alors j'ai 25 ans et je vous appelle de Mulhouse actuellement.
D'accord, dans l'est de la France, il ne fait pas trop chaud, ça va?
Ça va, il fait un peu chaud, mais bon, on va pas se plaindre.
Oui, parce que quand il fait chaud chez vous, il fait très chaud dans l'est, hein.
C'est ça, mais on fait avec.
Bon, très bien, Amandine. Alors, vous êtes atteinte depuis l'âge de 2 ans de ce qu'on appelle la maladie vitiligo, une maladie qui dépimente la peau. Vous dites que la pire période de votre vie avec cette maladie a été votre adolescence. Vous subissiez moqueries et jugements. Vous vous êtes renfermée sur vous-même à cette époque?
Tout à fait. Ben, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être différente à l'école. Et c'est vrai qu'effectivement, énormément de questions, énormément de regards et de moqueries pendant l'adolescence, ça n'a pas été simple. Ouais.
Est-ce que cela a eu aussi un impact sur vos premières relations amoureuses?
Alors oui, ça a eu un impact, puisque quand on est mal dans sa peau, quand on souffre du regard des autres, forcément on ne sera pas bien lors de sa première relation amoureuse.
Difficile de montrer son corps lorsqu'on a ce type de maladie.
Tout à fait, difficile, absolument, que ce soit également l'été, hein, en maillot de bain, en sous-vêtements, c'est compliqué effectivement. Ouais.
Votre mère vous parlait régulièrement des conférences et des groupes de soutien pour les personnes atteintes de vitiligo. C'est en y allant un peu à contre-cœur d'ailleurs que finalement la vision de votre corps a commencé à changer. Dites-moi ce qu'il s'est passé à ce moment-là, pour quelles raisons vous avez commencé à changer?
Tout à fait. Alors en fait, l'Association française du vitiligo organise une fois par an des rencontres à Paris.
Oui.
Et donc ma maman, donc ça faisait plusieurs fois qu'elle m'encourageait à y aller, mais c'est vrai que comme j'étais mal dans ma peau, je refusais de l'aide, je refusais d'en parler, je refusais de voir les médecins. Donc je me suis rendue finalement à Paris et étant très mal dans ma peau, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais assez isolée, j'étais dans mon coin. J'ai pas souhaité discuter, échanger avec les autres personnes, mais par contre j'ai vraiment écouté ce que les personnes disaient et c'est vrai que je me suis sentie moins seule. Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Et c'est ce qui m'a donné finalement la force de me relever et de changer le regard que j'avais sur moi-même, sur mon corps.
Tout groupe de parole, en règle générale, aide à réaliser que l'on n'est pas seul. Et puis partager aussi est une façon d'avancer aussi, d'accepter. Qu'avez-vous fait pour apprivoiser votre corps, pour vous sentir mieux?
Alors j'ai une amie dans un premier temps qui m'avait proposé un shooting photo, il s'agit de Charlotte. C'est quelque chose, donc j'ai relevé le défi, ça a été compliqué pour moi puisqu'il s'agissait d'un shooting de nuit artistique. C'était assez compliqué pour moi, personne très complexée, mais finalement j'ai relevé le défi.
Oui.
Et c'était plutôt sympa, donc j'ai vu le résultat dans l'immédiat, sans retouche photo. Et c'est vrai que j'ai trouvé la photo en fait magnifique, c'était la première fois que j'avais... que j'avais ce regard en fait sur moi, quoi.
Oui, ça a dû vous faire beaucoup de bien, ça.
Énormément, oui.
Ouais. Vous faites aujourd'hui partie de l'Association française de vitiligo. Aider les autres à s'accepter, c'est important aussi pour vous de redonner ce qu'on vous a donné à un moment.
Tout à fait. Ben, j'ai vraiment ce but, en fait, d'aider les personnes. J'ai moi-même subi cette souffrance et c'est vrai que ça me fait beaucoup de mal de voir des personnes encore à l'heure actuelle qui souffrent énormément. Il y a des personnes de mon âge, de 25 ans, mais il y a d'autres personnes de 40, 50, 70 ans.
Oui.
Et ça me fait beaucoup de peine de voir qu'à 60, 70 ans, on ne s'est toujours pas accepté, on se prive de beaucoup de choses. Et finalement, on passe à côté de belles choses au quotidien et dans la vie de manière générale. Donc, j'ai vraiment ce but, oui, d'aider les personnes à s'accepter.
Et aider les autres, ça fait partie du processus pour mieux vous accepter, toujours plus ?
Je pense que ça en fait partie, oui.
Oui.
Ouais, je pense. Ouais.
Reste l'adolescence, hein, cette période. Vous évoquiez ces années de collège, le regard des autres. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que cet âge-là. Je trouve que les adolescents ne se rendent pas compte, mais ils sont extrêmement violents entre eux. Ça a été la pire période de votre vie, ça ?
La pire période, oui, on peut bien évoquer ce mot. Ça a été une période trop compliquée. Ben, comme vous le disiez, je pense que l'adolescence est une période déjà compliquée.
Oui.
Les enfants sont très durs, effectivement, et je pense que quand on a une différence, entre guillemets, c'est d'autant plus difficile.
Mille merci, Amandine, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Léa. Elle a mis beaucoup de temps à accepter son corps, ses formes, et la thérapie, notamment, l'a aidée à s'accepter.
Europe 1. Comment vivre en harmonie avec son corps, s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts, avec son handicap? On vous écoute au 39-21, vous réagissez, vous nous posez vos questions aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Un seul numéro, le 39-21, vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Avez-vous du mal à vous accepter comme vous êtes ou vivez-vous parfaitement bien avec votre défaut, votre handicap et vous êtes arrivé à l'accepter? Vous êtes avec Olivier.
Nous avons eu Amandine au 39-21 dans la première partie de cette émission qui nous expliquer souffrir de vitiligo, cette maladie qui dépimente par endroits du corps la peau, et avoir commencé à partager avec celles et ceux qui souffraient de cette même maladie. Et le fait de partager, eh bien, c'est se sentir moins seul et puis déposer un peu de ce poids que ce type de maladie peut fournir aux uns et aux autres. Partager, nous allons en parler maintenant avec Léa. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Léa.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous, Léa ?
Alors, j'ai 27 ans et je vous appelle depuis Lisbonne, au Portugal.
D'accord. Léa, vous avez mis du temps avant de pouvoir vous regarder dans un miroir. Vous dites que vous vous êtes toujours vue grosse. Pourquoi ?
C'est vrai que c'est difficile quand on a 13 ans et qu'on se rend compte qu'on a des formes de femmes bien avant les autres, qu'on a une poitrine et des fesses très développées alors que les autres pas du tout. Et on se dit que forcément on a quelque chose de plus qu'on ne devrait pas avoir, tout cas pas à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et puis les autres enfants forcément qui nous regardent et qui nous disent « Ah, t'es grosse !» parce que on a des formes de femmes avant l'heure et que forcément ça aide pas et on se voit dans un miroir, on se dit qu'on est grosse en fait par rapport à ça.
Mmh. On entendait Amandine dans la première partie de cette émission qui nous disait combien la période justement de l'enfance et de l'adolescence avait été dure pour vous. Est-ce que c'est ce qui a été le plus difficile à vivre pour vous ?
Oui, c'est vrai que ça a été une grosse partie de ma vie qui a été très très difficile puisque j'ai pas du tout accepté mon corps pendant toute l'adolescence par rapport au regard des autres, notamment où je voyais toutes mes copines qui étaient très très fines, qui n'avaient pas forcément de forme développée et qui étaient que je trouvais beaucoup plus jolie que moi. Et du coup, j'avais tendance à me cacher, à me dévaloriser, à penser que je ne méritais pas qu'on m'aime et que c'était compliqué, quoi.
Est-ce que votre regard sur vous-même n'était pas déformant au final ? Est-ce que vous n'étiez pas trop dur avec vous-même ? Est-ce que vous vous jugiez durement, à votre avis ?
Ah si, beaucoup.
Ouais.
C'est vrai que je me suis vue grosse toutes ces années d'adolescence. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos de moi quand j'avais 14, 15, 16 ans, je me dis non, en fait, j'étais pas grosse. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je me vois comme ça alors que c'était pas du tout le cas, en fait.
Oui, c'était les autres qui étaient filiformes, visiblement. Et vous aviez simplement des formes. C'est tout ce qui s'est passé. Rien d'anormal. Deux raisons peuvent expliquer ce que vous avez traversé. Votre mère faisait beaucoup de régimes et vous étiez avec un compagnon qui ne cessait de vous rabaisser. Racontez-moi ça et comment vous avez fait pour vous sentir mieux ensuite ?
Alors, bah oui, c'est vrai que du coup, du côté de ma mère, il y a cette obsession en fait du poids où il faut être vraiment bien, bien pour être en bonne santé, il faut pas être grosse, etc. On a peur du diabète, etc. du côté de ma mère, donc forcément, ça conditionne déjà un peu. Et puis, je suis restée 2 ans et demi avec un compagnon maltraitant qui me rabaissait, qui voulait que je ressemble absolument aux filles dans les magazines. Il fallait que je fasse du sport, que j'arrête de manger. Donc oui, c'était très compliqué. Ça a été une très très grosse partie de ma vie très compliquée où j'ai dû prendre sur moi pour essayer de ressembler aux autres et j'ai jamais réussi quoi forcément.
Ouais.
Donc
Voilà,
et puis,
vous avez
oui.
changé, vous allez mieux depuis.
Oui.
Comment avez-vous fait?
Alors bah du coup en fait j'ai entamé une thérapie avec une super psychologue. Souvent, on dit bah, que les psychologues, ils ont une mauvaise image parce que bah, c'est pour les fous, etc. Mais en fait, quand on trouve la bonne, vraiment, c'est génial et ça m'a aidé vraiment à me libérer de tout ce que j'avais pu vivre. C'est comme si en fait j'avais un fardeau qui s'enlevait de sur mon dos et je me suis rendu compte que bah, je pouvais être jolie et que je me voyais un peu trop sévèrement en fait dans le miroir. Et comme Amandine, en fait, j'ai fait un shooting photo et ça m'a beaucoup aidé en fait de me voir d'une façon autre que celle de tous les jours où j'étais bien apprêtée, où j'avais des jolies photos qui me mettaient en valeur, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, je suis pas juste grosse, je suis moi, je suis jolie, je suis comme je suis. Et si ça plaît pas, bah tant pis en fait.
Exactement. Et puis, vous avez vu la capacité que nous avons à nous raconter des choses très dures sur nous-mêmes. On produit un nombre d'idées négatives sur nous lorsqu'on est parti sur ce chemin-là. C'est difficile, hein?
Oui, puis c'est vrai que la société n'aide pas non plus parce qu'on voit forcément bah, les filles dans les magazines qui sont très retouchées avec la police, sans boutons, sans
Photoshop.
bourrelets, sans...
Photoshop.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Et puis
C'est
avec ces
ça, et
filtres aujourd'hui.
forcément...
Avec ces filtres qu'on utilise sur, voilà, sur nos téléphones, c'est vrai que je vois passer sur les différents réseaux sociaux voilà, beaucoup de photos d'hommes et de femmes, hein, d'ailleurs, hein, qui se retouchent avec des filtres automatiques. Vous dites aujourd'hui que les hommes eh bien, vous repoussent à cause de vos formes et ils ne savent pas ce qu'il manque. Vous êtes fière de votre corps aujourd'hui?
Ah oui, totalement. Franchement, je me rends compte que bah je suis bien pour moi et puis bah si ça plaît pas aux hommes, si ça plaît pas aux autres, mais bah voilà, aller voir ailleurs, je m'en fiche en fait. Moi, je suis bien comme je suis quand je me regarde dans le miroir, que je mets une jolie tenue, un joli vernis, une belle coiffure, je me dis bah je suis bien et puis bah les autres ça leur plaît pas, bah tant pis, mais je vais faire ma vie sans vous en fait. C'est mon corps et j'ai pas besoin que les autres l'approuvent en fait.
C'est important ça pour vous aujourd'hui, et c'est votre force aujourd'hui de vous trouver belle lorsque vous vous regardez, enfin.
Ah oui, bah totalement. Franchement, ça change, mais toute une vie. On se lève le matin et on n'a plus envie de se cacher, on a envie de montrer qui on est, on a envie de parler aux autres, de sortir, de rencontrer des gens, enfin, c'est vraiment une libération en fait.
C'est une toute autre vie. Merci beaucoup Léa pour votre appel et votre témoignage lumineux cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons David Le Breton. Il est sociologue et anthropologue. Il a écrit de nombreux ouvrages sur notre rapport au corps.
Europe 1. Apprendre à vivre avec son corps tel qu'il est, avec ses imperfections, comment êtes-vous arrivé à vous accepter? On vous écoute au standard d'Europe 1 le 39-21. Vous vous trouvez belle, beau comme vous êtes, avec vos imperfections et aucun mot ne peut vous atteindre, chante Christina Aguilera. Comment ne pas laisser ses défauts, son handicap, nous gâcher la vie, s'accepter? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour venir nous raconter.
Et pour nous parler de notre rapport à notre corps, nous accueillons maintenant David Le Breton, sociologue et anthropologue. Bonjour, merci monsieur d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
C'est moi qui vous remercie. Bonjour.
Bonjour. Alors vous avez écrit de nombreux ouvrages hein, sur notre rapport au corps, notamment le livre « Corps et adolescence » disponible aux éditions Faber. Et dans ce livre, vous dites que le corps se fait projection du mal-être de l'adolescent. Qu'entendez-vous par là?
D'abord, je dirais que le corps, c'est notre personne. Nous sommes notre corps et c'est à travers lui que nous sommes nommés, que nous sommes jugés,
oui.
que nous sommes identifiés à un âge, à un sexe, à une couleur de peau, à une qualité de séduction, etc. Mais toujours, nous vivons notre corps à travers un écran de fantasmes, à travers un écran de qui est lié évidemment à notre histoire personnelle, à notre inconscient, à la manière dont les autres, dont nos proches nous ont entouré. Donc au moment de l'adolescence, c'est le moment où finalement on doit apprivoiser un corps qui change, un corps qui peut-être est déjà tributaire d'un certain nombre de défauts entre guillemets, mais de défauts pour le regard des autres, pas forcément pour soi. Donc il faut s'accoutumer à ce regard des autres. On pourrait dire d'ailleurs que l'adolescence est le moment où on prend chair en soi, hein, où on prend corps dans le monde, mais non sans turbulence, non sans difficulté, puisque évidemment il y a aussi énormément de souffrance à l'adolescence, pas seulement d'ailleurs dans le rapport au corps, dans le rapport à cette tyrannie de l'apparence qui régit nos sociétés, mais aussi il y a beaucoup de souffrance affective, il y a beaucoup de conduite à risque notamment.
Alors, on l'a entendu avec Amandine et Léa, hein, vous faites référence à cette période de la vie qui est l'adolescence. Aujourd'hui, on voit combien notre jeunesse sur les réseaux sociaux, hein, et ce diktat de la perfection et du paraître que l'on trouve sur ces réseaux sociaux, accentue-t-il aujourd'hui les complexes et le mal-être de ces jeunes ?
Oui, terriblement, puisque effectivement l'apparence est vraiment devenue une tyrannie, la séduction est devenue un impératif, particulièrement pour les filles évidemment, parce que c'est un autre aspect de l'analyse sociologique, c'est que ce sont davantage les filles qui sont prisonnières de cette image de leur corps que les garçons. Vous n'avez encore eu aucun témoignage de garçons.
Non, mais c'est un peu une habitude.
Oui, mais même si les filles peut-être téléphonent ou les femmes téléphonent davantage à Europe, je pense que c'est quand même un problème davantage féminin, parce que c'est la dimension du genre, une femme ne vaut aujourd'hui d'une certaine manière que ce que vaut son corps, c'est-à-dire sa qualité de séduction. Donc il y a là quelque chose d'une cruauté sociale, hein, d'une terreur qui s'exerce à l'encontre des adolescentes notamment, qui englobe d'ailleurs énormément d'éléments, parce que regardez le nombre de filles aujourd'hui qui font des régimes, qui sont obsédées par l'idée d'être trop grosses, alors que quand vous les regardez, vous les trouvez même à la limite plutôt mince.
Oui, et qui modifient leur corps, hein, parce qu'aujourd'hui, la chirurgie esthétique, on voit combien d'adolescentes ont recours à cette chirurgie.
Absolument, pour remanier, rectifier en quelque sorte l'image de leur corps. L'image, je dis bien l'image, parce qu'on est toujours dans le fantasme. C'est ce que disait très bien d'ailleurs Léa, que finalement elle se trouvait très très belle, mais seulement elle était confrontée à un regard négatif des autres. Et souvent dans la chirurgie esthétique, il faut changer donc cette image. Et donc de cette manière, la personne apprivoise en quelque sorte son corps. Mais d'un autre côté, vous avez aussi les innombrables attaques au corps, hein, qui caractérisent nos adolescentes. Hein, pense aux scarifications et tout ça, qui sont des manières de dire sa souffrance. Et là, en revanche, le sentiment d'être piégé, d'être emprisonné dans un corps qui devient un fardeau, qui devient une prison, alors que d'autres vont essayer davantage, à travers des régimes, à travers une discipline personnelle, de rendre leur corps plus séduisant, entre guillemets. Mais en même temps, c'est répondre évidemment aux impératifs du regard des hommes, surtout, même si le regard sur soi est aussi important. Mais il est quand même conditionné par le regard que les hommes portent sur ces corps de jeunes femmes.
Alors, bien évidemment, le regard de la société, on le connaît, il est dur, il est sans limite, sans loi. Mais pour tous ces adolescents qui nous écoutent aujourd'hui, et ces parents, et puis aussi toutes ces femmes qui ont un problème avec ce corps, comment l'apprivoiser, ce corps ? Comment y arriver ? Comment se défaire de ses propres projections ?
D'abord, il faut penser que le corps n'existe qu'à travers le regard qu'on porte sur lui, son propre regard, hein, et le regard des autres peut être complètement différent. Et puis en tant que sociologue, j'aimerais rappeler que nous vivons dans un monde où en fait il y a une multitude de corps différents, une multitude de séductions différentes, que la séduction n'est pas du tout liée forcément à un âge, qu'elle n'est pas liée à un poids, qu'elle n'est pas liée à une silhouette, une attitude. Elle est liée d'abord à ce que la personne elle-même, à ce que l'adolescent lui-même fait de son propre corps. Le monde n'existe qu'à travers le regard qu'on porte sur lui. Il n'y a pas d'objectivité du corps, il n'y a pas d'objectivité du monde. Il y a la confiance qu'on a en soi, l'estime qu'on a en soi, et puis l'amour de la vie aussi qui nous porte et qui fait que finalement on rencontrera dans ce cas-là des gens qui aiment la vie aussi et qui vont nous aimer. Mais si on porte une image dépréciée de soi, il est clair qu'on risque de l'alimenter également dans le regard des autres. C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord changer son propre regard sur soi pour être dans le goût de vivre, dans la jubilation d'exister. C'est ça qui crée la séduction.
Alors aujourd'hui, on voit que certaines égéries, comme Bess Ditto, aussi les Kardashian,
Gossip,
hein,
ouais, ouais.
Je trouve quand même aussi formidable ce qu'elles véhiculent aujourd'hui, apportent aux adolescents qui souffrent hein, de ce type de malaise. En fait, c'est une image aujourd'hui qui montre que quoi qu'on soit, je veux dire, bien en chair ou rectiligne, longiligne, comme on dit, si on aime son corps, si on est bien dans sa peau, dans son corps, on peut totalement y arriver. David Le Breton, je rappelle que vous êtes anthropologue et sociologue, que vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le rapport au corps. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Stéphanie depuis une maladie qu'elle a contractée à l'âge de 27 ans. Elle est en fauteuil roulant. Aujourd'hui, elle a fait de sa différence, on va le voir, une véritable force.
Karine a 53 ans et témoigne au 39-21. Elle souffre de complexes, des complexes ordinaires, ce que nous toutes et tous pouvons ressentir à un moment de notre vie, hein, qu'on soit pas forcément objectif. D'ailleurs, il n'y a que les petits défauts qui sautent aux yeux. Ce que nous dit Karine, je fais 52 kilos, je mesure 1m66, mais je me trouve énorme. Dès que je me regarde dans la glace, je vois ce qui ne va pas.
Europe 1.
Des défauts physiques qui régissent notre quotidien. Comment faire la paix avec notre miroir? Comment apprendre à s'estimer à sa juste valeur? Vous en parlez cet après-midi sur Europe 1 au 39-21. Vous n'aimez pas l'image que vous renvoie le miroir? Comment apprivoiser son corps? Vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Stéphanie?
Alors moi j'ai 43 ans et j'appelle du Mans.
D'accord, dans la Sarthe.
Ouais.
À 27 ans, Stéphanie, vous avez contracté une maladie qui attaque tous vos muscles. Très rapidement, vous vous êtes retrouvée dans un fauteuil roulant. Vous dites qu'au début de cette maladie, vous détestiez votre corps. Par quoi cela se traduisait-il?
Ça se traduisait déjà, c'était en fait, je n'aimais pas ce corps à cause de la douleur qu'il me provoquait, et donc du coup, j'ai fini par le détester au départ. Et du coup, pour compenser, je mangeais. Donc voilà, j'avais des crises de boulimie, donc c'est ce qui faisait que je détestais encore plus ce corps puisque je prenais du poids et donc du coup, il me plaisait encore moins.
Vous dites que vous l'avez aussi maltraité, ce corps. Est-ce que c'est le fait de manger comme ça, de devenir boulimique ou il y avait d'autres maltraitances?
En fait, je n'écoutais pas en fait, les douleurs. J'essayais de... Je me fatiguais le plus possible, en fait, jusqu'à ce que je sois complètement épuisée. Et, en fait, c'était un cercle vicieux, quoi. C'était vraiment...
À partir de quand vous avez accepté ce fauteuil et ce corps dans ce fauteuil?
Je me suis dit, c'est soit tu avances et voilà, tu fais que la vie soit belle, ou soit tu te morfonds dans ton coin et les enfants vont penser que ils auront une maman triste et qu'ils ne devront pas s'en sortir. Donc du coup, je me suis dit non, faut absolument... C'est mes enfants qui m'ont fait un peu un électrochoc et me dire non, faut que tu avances et vas-y, secoue-toi, quoi.
Comme souvent, les enfants nous montrent le chemin, hein, donnent du sens à nos vies, mais nous montrent le chemin parce qu'ils mettent de la magie partout. Et cette magie, elle s'est transformée pour vous en activité sportive. Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont aidé à gagner, à accepter ces activités sportives? D'abord, je suppose que vous êtes surpassé déjà.
Déjà, oui, se surpasser, accepter son corps, et puis voir qu'on est encore capable de choses, avec ce corps qui est pas comme tout le monde, on a des difficultés, on a des fatigues plus que... Mais on arrive à faire plein de choses avec ce corps, et du coup, j'ai commencé en faisant de la sarbacane, et puis maintenant, je fais de la danse.
Oui.
Je fais de la danse fauteuil avec Andy Danse. Du coup, ça fait 2 ans que j'en fais. J'adore ça. Je fais de la piscine, je fais pas mal de choses.
Est-ce que vous avez réussi, à votre avis, en pratiquant ce sport, à faire le deuil de ce corps d'avant?
Oui.
Oui.
J'y pense même plus. J'y pense plus, je fais justement, je me dis que plus j'en prends soin et plus je suis mieux dans ma tête.
Ouais.
Et du coup, plus je bouge en plus, parce que je peux remarcher quelques pas à la maison, chose que je ne pouvais plus faire. Grâce à la danse, je peux refaire plein de choses, quoi.
Vous dites quelque chose que je trouve très lumineux. Vous dites que l'essentiel aujourd'hui pour vous, c'est d'écouter votre corps. et non de le maltraiter. Dites-moi pourquoi vous dites ça.
Parce que pour moi, le corps, il nous parle. Enfin, je veux dire, il nous... si on ne l'écoute pas, ben, du coup, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est, je sais que plus je fais attention à ce corps et plus je l'écoute,
oui.
Et mieux je suis, quoi.
Plus il vous le rend, sans doute, parce que vous évoquez la danse. Il doit vous le rendre à travers la danse.
Ouais, je me sens légère, en fait, avec la danse. Alors que avant, je me considérais plus comme un éléphant qu'un papillon.
Oui.
Mais là, quand je danse, j'ai l'impression d'être un papillon qui s'envole. Voilà. Mm-hmm. J'adore.
J'entends les oiseaux, puisque vous êtes visiblement dans votre jardin.
Oui.
Et voilà, un papillon parmi les oiseaux cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Ça fait du bien. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi, Stéphanie, sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous allons accueillir Mélanie. C'est en acceptant son corps, on va le voir, bien un peu comme vous, hein, Stéphanie, que sa vie a été beaucoup plus facile à vivre.
Le témoignage d'Isabelle, 63 ans au 39-21. Je n'ai jamais accepté mon corps et mon surpoids. Ça a provoqué plein de problèmes dans ma vie. Je n'arriverai jamais à m'accepter. Dès l'âge de 15 ans, j'ai fait tous les types de régimes, mais je replonge à chaque fois. Et avec le temps, c'est encore plus difficile de perdre et de se motiver.
Europe 1.
Comme Stéphanie, qu'on vient d'entendre, vous avez fait de votre différence une force. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous vous sentez épanouie malgré un handicap ou un défaut physique. Ou au contraire, comme Isabelle, ce n'est pas le cas. Venez également nous le dire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 pour nous écrire. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des défauts, des imperfections, de nos handicaps. Un nez trop long, une taille trop ronde, une calvitie, une maladie. Comment êtes-vous arrivé à apprivoiser votre corps? Vous nous le dites au 39-21.
Et pour parler de ce corps et du rapport qu'on a avec ce corps, nous accueillons maintenant Mélanie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Mélanie.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mélanie?
J'ai 35 ans et j'habite à Choisy-sur-Montmorency dans le Val d'Oise.
D'accord. Alors, vous avez toujours été danseuse, vous, Mélanie. Enfant, vous étiez douée pour la danse classique. Mais à l'âge de 10 ans, on vous a fait comprendre que vous n'y arriverez pas si vous ne perdiez pas de poids. Ce que je trouve assez violent. Comment est-ce que vous l'avez vécu du haut de vos 10 ans?
Faut savoir que c'était surtout parce que je voulais présenter l'opéra. Donc, c'est pour ça que c'était assez contraignant.
Oui.
C'est vrai qu'à 10 ans, on comprend pas trop, 10-11 ans, on comprend pas trop pourquoi on mange du chou-fleur et le frère et la sœur ont droit aux frites et aux pâtes.
Oui.
Donc, après, on sait que c'est pour sa passion, mais c'est pas toujours évident de comprendre. C'est vrai.
Mais annoncer ça à un enfant de 10 ans, et vous allez me dire si cela a été le cas. Ça peut vraiment provoquer un complexe tout de suite. Est-ce que ça vous a complexé, vous?
Non, pas quand j'étais... quand j'avais jusqu'à l'âge de 14 ans, ça ne m'a pas complexé plus que ça.
Oui.
Je savais que c'était pour la danse, voilà. Même si, je ne cache pas, j'avais du mal à le faire, hein, quand même.
Oui.
Mais c'est surtout arrivé à 16-17 ans, l'adolescence, le corps qui change, forcément. Et puis là, il y a le physique qui fait que pour la vie de tous les jours, ça passe. Et puis pour la danse, ça commence à bloquer, quoi, forcément.
Oui. Tout au long de votre carrière, on vous a fait des remarques sur votre poids, donc sur votre corps. Vous avez donc enchaîné des régimes, hein, je crois. Et finalement, vous ne faisiez ces régimes que par rapport au regard des autres. Car visiblement, vous vous acceptiez, vous.
Moi, dans la vie de tous les jours, je ne me trouvais pas bizarre. Enfin, je ne trouvais pas que j'étais plus grosse qu'une autre.
Mmh.
C'était vraiment parce que ma passion, c'était la danse, que je voulais en faire mon métier et qu'il fallait rentrer dans un moule. Faut dire ce qu'il y a. Forcément, quand dans la tête, on n'a pas envie de le faire, ça ne peut pas fonctionner.
Ouais.
Voilà.
Alors, allez-y.
Oui, donc c'était vraiment le seul reproche qu'on pouvait me faire à chaque fois sur chaque contrat. Effectivement, c'était le poids. Et puis au bout d'un moment, il y en a un peu assez.
Ben oui,
Donc voilà. Voilà. Et moi, je faisais tout le contraire.
Ben, vous avez...
Plutôt que de maigrir, je faisais le sens inverse. Et je pense qu'après, ça dépend des personnalités. Mais moi, en plus, je suis plutôt esprit contradiction, on va dire. Et plus on me faisait comprendre que ma seule barrière, c'était mon poids, plus ça me prenait la tête, plus je mangeais. Voilà, on pensait,
mais
clairement.
En même temps, vous dites que vous vous sentez beaucoup mieux en taille 42 qu'en taille 38.
Oui, paradoxalement, un jour, j'ai une amie qui m'a sorti le proverbe « Ce que l'on te reproche, cultive-le, parce que c'est toi
».
Ce jour-là, c'était il y a peut-être une petite dizaine d'années, je me suis rendu compte que je pouvais être tout aussi bête, tout aussi attirante, avoir quand même du travail et telle que je suis, sans forcément rentrer dans le moule. Alors, je ne dis pas, c'est plus compliqué. Hein. Forcément, on se bat deux fois plus contre tout, contre les gens, contre le regard, contre les a priori. Oui. Mais c'est comme ça que j'ai appris à m'accepter. Et du coup, ouais, je me sens beaucoup mieux dans ma taille 42 qu'à l'époque où je faisais un 36-38 et où on me jugeait deux fois plus, clairement.
Je me tourne vers vous, David Le Breton. Oui. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue. On écoute ce témoignage assez saisissant hein, de Mélanie. Comment changer les mentalités, en fait ? Parce qu'on voit combien elle se sent bien, elle, dans sa peau. Alors, comment changer les mentalités ? En rendant visible, plus visible, finalement, tous les corps et en sortant des normes ?
Ben, moi, en tous les cas, très souvent, je le rappelle dans mes cours, dans des interventions, il y a d'innombrables modèles de corps dans nos sociétés. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux sur le moindre trottoir de Paris ou d'ailleurs pour voir combien chacun de nous est différent. Donc la valeur de notre corps, en fait, elle tient uniquement au regard que nous portons sur lui. Hein. Oui. La valeur de notre corps, c'est nous qui le lui donnons. Donc quand on est bien dans sa peau, finalement, en faisant tel ou tel poids, eh ben, il faut revendiquer dans ce cas-là de se maintenir comme ça et ne pas céder à ces espèces d'injonctions, de disciplines en quelque sorte d'une société qui généralement est très fantasmée d'ailleurs parce que l'amour n'est pas proportionnel au poids qu'on fait si vous voulez.
Heureusement,
donc ça veut dire que chacun de nous finalement trouve amoureux ou amoureuse et peu importe le poids qu'on fait bien entendu.
Mm-hmm. Alors Mélanie, vous avez des tatouages hein, qui parlent de ce body positive que vous voulez mettre en avant. Et puis, vous donnez aujourd'hui des cours de danse body positive aussi. Donnez-moi la tendance de vos élèves, de celles et ceux qui viennent à vos cours. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher ?
En fait, elles viennent. Alors, c'est madame, Nène Mabel, tout le monde. Il
ouais.
n'y a pas de critères. C'est ouvert à tout le monde et elles viennent pour apprendre à s'accepter, à s'aimer
oui.
au travers de la danse. Et c'est ce que j'essaie de leur apprendre. J'essaie de faire en sorte qu'elles s'épanouissent et qu'elles se trouvent belles à travers la danse.
Qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce qui revient régulièrement de la part de ces femmes ? C'est toujours le regard des hommes, parce que David Le Breton parlait de ce regard des hommes, alors, de cette exigence des hommes.
C'est même pas forcément les hommes. C'est la société en elle-même. Ouais. Les femmes hein, sont méchantes. Moi, je trouve, quand on peut se balader dans la rue, il y en a qui regardent. Alors, peut-être que ça peut être mal interprété, mais le regard mauvais vient aussi des femmes autant que des hommes, moi, je pense. Mais après, c'est mon avis. Hein.
Mm-hmm. Mais écoutez, c'est mon avis aussi. Parce que quand je vois ces mannequins, en fait, dont vous remarquerez, dont la démarche me choque à chaque fois. À chaque fois que je vois des défilés de haute couture comme ça à la télévision, hein, parce que je ne suis pas vraiment client, mais même jusqu'à la manière de marcher, je trouve que là, on a des normes complètement hors limite. On a des mannequins qui sont longilignes complètement, qui ont généralement 14 ans. Donc si l'image de la femme doit ressembler à cela aujourd'hui, bah, écoutez, je pense qu'on est assez nombreux à encore être de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Mélanie, aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, on va accueillir Jean-François. Il a fait 107 kilos à un moment, et puis aujourd'hui, il n'en fait plus que 70. Et tout ça grâce à la marche à pied, et même la course à pied, on va voir.
Europe 1. Comment apprivoiser son corps ? Y êtes-vous arrivé ? Vous nous racontez cet après-midi au standard d'Europe 1, le 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous nous dites comment vous êtes arrivé à apprivoiser votre corps.
Apprivoiser ce corps, avoir un bon rapport avec ce corps, aimer ce corps. Nous allons en parler avec Jean-François que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-François.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous Jean-François et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je m'appelle Jean-François Lajeunesse.
Oui.
J'ai 63 ans. Et j'appelle de Nantes.
D'accord, quel joli nom, Jean-François Lajeunesse.
Oui.
C'est magnifique.
C'est-à-dire que j'étais alcoolique pendant 20 ans.
Oui.
J'ai fait jusqu'à 107 kilos dû à l'alcool. Je me suis retrouvé SDF à 47 ans.
Oui.
Et la course à pied m'a redonné une identité. Sans un cachet, sans rien, j'ai vraiment tout arrêté. Je fumais 40 cigarettes par jour et des mégots quand j'avais pas d'argent.
Oui.
Et j'ai tout arrêté et la course à pied m'a redonné une identité.
Mmh. Mais revenons, Jean-François, si vous le voulez bien, à cette période où vous faisiez 107 kilos. Et à ce corps que vous maltraitiez, puisque visiblement, ça n'était pas le bon poids pour vous.
Quand j'étais jeune, je faisais 64-65 kilos et maintenant j'en fais 70. Mais si vous voulez, quand je buvais, quand je maltraitais ce corps-là, à un moment donné, je ne m'en rendais pas compte.
Oui.
Parce que vous êtes dépendant. Vous voyez, c'est vraiment, les gens peuvent regarder dans Internet mon histoire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des foulées pour renaître ».
Oui.
Vous voyez, et je vais vous dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et pardon si c'est incorrect, mais on fait aujourd'hui beaucoup sur la canicule en ce moment, et c'est très juste, hein, il faut le faire, des préventions. Mais c'est peut-être le plus dur, c'est pour les gens qui sont SDF et qui boivent.
Oui.
Vous voyez, parce qu'ils sont dépendants de l'alcool, ils ont besoin de boire. Ils ne peuvent pas arrêter comme ça. Ils sont dans la rue et la chaleur, c'est dramatique.
Oui, alors j'entends complètement ce que vous dites, Jean-François.
Ça me tenait, et c'est pour ça que je m'excuse. C'était,
mais j'entends complètement et vous avez raison. Je partage complètement cette pensée pour toutes ces personnes qui souffrent.
Si j'ai écrit le livre « Des foulées pour renaître », c'est parce que j'ai été SDF.
Oui.
Et les 15 dernières années que je vis, si vous voulez, si je me bats pour témoigner, c'est pour dire que j'ai une chance extraordinaire parce qu'elle est belle, la vie.
Alors cette chance, vous vous l'êtes offerte, cette chance, oui, Jean-François.
Oui, bien sûr. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des enfants qui m'ont aimé.
Oui.
Puis la chance d'avoir une santé.
Oui.
Vous voyez, je buvais de l'alcool à 90 à la fin. Et je n'ai rien. J'ai couru un marathon en 3h22.
Oui.
Donc, si vous voulez, cette chance-là, elle est formidable. Alors, c'est aussi de dire que le corps, c'est une merveilleuse machine. C'est quand vous avez la chance d'arrêter au moment où il faut, rien n'est jamais perdu.
En tout cas, votre message est passé, Jean-François. On voit, vous venez de le livrer, lorsqu'on a décidé que rien n'était perdu, lorsqu'on décide de s'aimer et puis d'arrêter, comme vous l'avez fait, l'alcool, en même temps que vous avez repris la course à pied, on voit combien cela peut être bénéfique, parce que là, on parle de 37 kilos de perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 37 kilos, eh bien, c'est pratiquement 4 packs d'eau, vous savez, les gros packs là, de 6 bouteilles d'un litre et demi. Hein, je ne me trompe pas, hein, calcul en attendant. En tout cas, merci mille fois, Jean-François, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. David Le Breton, revenons à cette image du corps, de ce rapport que l'on a au corps. Vous soulignez tout à l'heure que les hommes avaient un regard très... très dur sur ces femmes, et donc que ces femmes se sentaient dans l'obligation d'avoir un corps proche de ce qu'on imaginait de la femme parfaite. Qu'est-ce que la femme de demain, la femme parfaite, pourrait représenter pour vous qui avez étudié ce rapport au corps? Comment on pourrait changer, en fait?
L'idéal, évidemment, ce serait que chaque femme et chaque homme se sente bien dans le corps qu'il a, mais avec un corps évidemment qu'il faut mettre en mouvement. C'est sans doute ce qui a sauvé Jean-François. On vit dans une société sédentaire, que j'appelle souvent d'ailleurs une humanité assise, et le fait de se remettre en marche et donc de reprendre sa vie en main, de reprendre son corps aussi en main, est une manière de retrouver le goût de vivre.
Oui.
Et c'est ça évidemment qui est essentiel. C'est le bonheur qu'on a de vivre, et après, peu importe le poids qu'on fait, peu importe le handicap que les autres croient qu'on a, mais qu'on ne vit pas forcément comme tel. Voilà, donc il n'y a pas de corps idéal, il n'y a pas de perfection, il y a uniquement ce que chacun de nous fait de sa vie. Et c'est important aussi de rappeler que la vie est toujours devant soi. Elle est devant soi, elle n'est pas derrière nous, elle n'est pas dans la rumination de tout ce qu'on a gâché ou autre, elle est devant soi, donc elle est toujours à construire, évidemment.
Et j'entends ce message de la vie devant soi, du désir donc que l'on peut tous avoir de s'aimer un jour, et je reprendrai la réflexion de Mélanie qui disait, moi je me sens mieux en 42 plutôt qu'en 38. Voilà. Et j'aime être en 42 et je me sens bien. N'oubliez pas une chose, vous qui nous écoutez, c'est que voilà, chacun de nous est capable de s'aimer. Le tout, c'est de le décider. Et après, je vous le dis, j'en fais moi-même l'expérience. Après, voilà, tout s'éclaire, tout devient lumineux parce que tout est possible. Et comme vient de le dire David Le Breton, la vie reste devant nous. Alors, bien évidemment, la victoire du soi est la plus grande des victoires, et ça c'est Platon qui le disait. La vision que l'on a de soi est souvent déformée, orientée. On s'invente des défauts et la société est aussi très forte pour en créer et pour relayer ces défauts. S'accepter, s'estimer, se défaire des normes et se libérer du regard des autres, voilà comment apprivoiser son corps au mieux. Plutôt que de pointer ce qui ne va pas, il faut apprendre à se regarder avec bienveillance. La danse, comme on l'a entendu, l'expression corporelle, une séance photo qui peut vous aider à découvrir que vous pouvez être beau, vous pouvez être belle et que tout peut être possible. Vous pouvez bien évidemment continuer à en discuter sur les réseaux sociaux.
Vous échangez entre vous, vous discutez. Cette émission se poursuit grâce à vous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous confier le soir à Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Europe 1.
Merci à Amandine, merci à Léa, merci à Stéphanie, à Mélanie, encore et à bien évidemment Jean-François et à David Le Breton pour avoir témoigné dans cette émission. Demain, nous parlerons ensemble des enfants qui manquent de confiance en eux, timidité, anxiété, peur de l'autre. Que faire pour qu'il se sente mieux? Alors si votre enfant n'a pas du tout confiance en lui, si votre enfant a retrouvé par contre confiance en lui, si vous, enfant, vous n'aviez pas du tout confiance en vous, appelez-nous au 3921 et Ongline et moi-même, nous serons là pour vous répondre.